Si vous vivez en France depuis un certain temps, vous avez sans doute remarqué qu'en France, on aime bien parler de la laïcité. La laïcité, c'est presque devenu une partie de la devise de la République. Vous savez, liberté, égalité, fraternité. Un jour, on rajoutera peut-être laïcité en quatrième point, quatrième valeur fondamentale de la République, la laïcité. Et ça fait bon maintenant quelques années que je lis des articles qui sortent régulièrement sur ce thème de la laïcité. Et bien souvent, ce qu'on fait remarquer dans ces articles, c'est que la laïcité en France est comprise dans son sens le plus strict, c'est-à-dire que la laïcité en France ne désigne pas seulement la séparation des pouvoirs, vous savez, la séparation de l'Église et de l'État. La laïcité, bien souvent, est comprise de telle sorte qu'en fait, il s'agit plutôt de l'absence, voire de l'interdiction de la spiritualité ou de la religion dans la sphère publique, comme si on pouvait préserver une zone publique, une zone de neutralité où il n'y aurait pas de religion, on ne parlerait pas de religion, on ne parlerait pas de choses spirituelles. Et évidemment, ça, c'est une conception très stricte, voire abusive, de la laïcité, dans l'esprit en tout cas d'origine de ce principe. Mais le problème, c'est que nous, si on vit en France, on baigne dans cette conception-là de la laïcité. Et je dirais que plus on baigne dans la laïcité, plus on a tendance à absorber en nous-mêmes une certaine vision du monde qui est issue de ce concept-là, de la laïcité. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par une sorte de notre côté, en tant que croyant, une sorte de timidité, une sorte d'autocensure par rapport à notre foi, ben justement, quand on est dans les espaces publics. Ça se traduit par des idées qui seraient les suivantes. Moi, j'ai mes idées qui appartiennent au domaine du spirituel et de la religion. Et ces idées ne doivent pas concerner, ne doivent pas toucher, ne doivent pas avoir d'implication sur la façon dont, par exemple, le maire fait son travail, ou le président et les ministres font leur travail, ou la police, ou tout ce qui est plutôt de l'autre côté du domaine du public ou du civil. Le problème, c'est que ça, à la limite, on peut encore vivre un petit peu avec. Sauf que ça fait de nous des chrétiens qui vivons un peu dans notre coin, qui nous désengageons de la société. Mais parfois, ça va même plus loin. On a une espèce de laïcité appliquée à notre vie personnelle, où on compartimentalise les choses, et où finalement, on est bien content d'être chrétien le dimanche, ou quand on est à l'église, dans les activités de l'église, et c'est comme si ça, c'était ensuite soigneusement rangé dans son tiroir, lorsqu'on était dans d'autres contextes, avec les copains, les collègues, les voisins, ou au travail, etc. Et petit à petit, nous commençons, je dirais, à craindre que la foi commence à se mêler de choses dans notre vie qui ne la regardent pas. Nous avons peur que la foi commence à exiger de nous des choses que nous ne sommes pas prêts à donner. Alors c'est commode de pouvoir ranger la foi dans ce tiroir ou dans ce compartiment, dans ce placard de notre vie, et de se dire que ça n'a rien à voir avec ces autres domaines de ma vie. Ce qui se passe, c'est que parfois on a des gens qui professent la foi hein, en Jésus, qui se disent chrétiens, et puis s'ils participent à la vie d'une église de façon assez assidue et régulière, ils vont être confrontés tantôt à des enseignements de la Bible qui vont les froisser, qui vont les déranger. Et lorsque la foi est rangée dans un compartiment et le reste de la vie dans un autre, c'est facile de se dire, bah, ça me froisse, mais ça ne me dérange pas parce que ces deux choses sont distinctes. Et on s'est appliqué une laïcité à la française à notre propre vie quand cela se produit. Cette idée-là n'est pas biblique. Et c'est ce qu'on va voir dans le texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier. On va s'intéresser au témoignage de conversion de l'apôtre Paul en personne. Le week-end dernier, dans le cadre de notre week-end d'église, on a eu la joie et le privilège d'entendre plusieurs personnes donner leur témoignage de comment Dieu a agi dans leur vie pour les attirer à lui. Et aujourd'hui, on va avoir le grand privilège d'entendre l'apôtre Paul nous parler de comment Dieu a agi dans sa vie, il y a bien longtemps, pour l'attirer à lui. Et il faut comprendre un petit peu le contexte, parce qu'on ne va pas tout lire, on va lire une partie de son témoignage. Dans le contexte, Paul va donner son témoignage aux habitants de Jérusalem, notamment à des gens qui sont représentés par les autorités religieuses de Jérusalem, des gens qui se sentent menacés par l'expansion du christianisme. C'est des gens, si vous voulez, qui aurait été bien attaché au concept français, à la conception française de la laïcité. Parce qu'ils auraient été bien contents que les chrétiens fassent leur truc dans leur coin sans déranger personne. Mais ils se rendent compte que ces chrétiens sont en train de remplir la place publique à parler de Jésus, à parler de l'évangile, à appeler les gens à faire confiance à Jésus, et c'est en train de déranger ces responsables religieux. Ils se sentent menacés dans leur pouvoir, dans le contrôle qu'ils avaient sur cette société. Ce sont des gens qui ont peur du changement, peur du bouleversement. Ils n'ont pas envie de se remettre en question, ni de remettre en question leurs habitudes, leurs coutumes, et en l'occurrence, leur religion. Ce sont des juifs, pour la plupart, là, et ce qui touche même à leur identité. Ils ont une vie bien ordonnée, une vie qui tient la route, qui marche très bien comme ça. Alors pourquoi venir perturber tout ça avec des idées comme quoi le Fils de Dieu serait venu, se serait incarné en la personne de Jésus, qui serait mort à la croix, que ce serait lui le Messie, ce qui est déjà bizarre en soi, que le Messie meure, mais qui serait ensuite ressuscité, monté au ciel, qu'il siégerait à la droite de Dieu. Alors si on prend chacune de ces expressions séparément, on se rend compte que là, on est en train de présenter des concepts absolument bouleversants, n'est-ce pas ? Dieu qui se fait homme, Dieu qui accomplit une œuvre d'expiation en mourant sur une croix, mais puis en ressuscitant, Dieu qui par Jésus est glorifié, élevé, monte au ciel, qui s'assied sur un trône au-dessus de toute la création. Ce sont des concepts bouleversants. Mais pourquoi tu m'embêtes avec tout ça ? Ma vie était bien avant que tu me parles de tout ça. Et pourquoi les chrétiens sont en train de se multiplier comme ça? Ils sont en train de déranger toute l'organisation de notre société. Donc ce sont des gens perturbés par cela, qui craignent ce genre de bouleversement, ce genre de renversement dans leur vie et dans la société. Et donc ils s'attaquent à Paul dans le contexte. Ils s'attaquent assez violemment à l'apôtre Paul, qui est en train de mener un peu tous ses efforts d'évangélisation à cette époque-là, dans cette région. Et là, Paul va se défendre, et c'est intéressant parce que la défense de Paul va consister essentiellement en son témoignage de conversion. Paul est sur le point d'être mis à l'écart par les autorités romaines, c'est la police de l'époque qui intervient parce qu'il y a des émeutes, vous savez, et ils voient que Paul est au centre de cette violence, de ces émeutes, alors ils interviennent et ils vont mettre Paul en prison. C'est pas pour punir Paul, en fait, c'est pour le protéger. Mais juste avant d'être emmené vers la forteresse, Paul, il demande aux autorités, là, aux policiers qui le tiennent, est-ce que je pourrais, juste avant de partir en prison, est-ce que je pourrais juste dire quelques mots aux habitants de Jérusalem? Et la défense de Paul, face à des gens qui craignent le bouleversement, c'est de leur expliquer qu'en fait, ce bouleversement est bien pire qu'ils ne le croient, bien pire qu'ils ne le craignent, mais c'est un bouleversement indispensable qui découle naturellement de l'Évangile, si on comprend bien ce que c'est que l'Évangile. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants, mais d'abord je vais inviter Hélène à venir faire la lecture. Il s'agit du livre des Actes, chapitre 22, les versets 3 à 16.
Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. J'étais en chemin et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Il m'a dit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit, que dois-je faire, Seigneur ? Et le Seigneur m'a dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, Ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me retrouver. Il m'a dit, « Seul, mon frère, retrouve la vue. » Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté, « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. »
Merci. Avant d'aller plus loin, on va prier. Notre Dieu, notre Père, merci encore pour l'occasion que nous avons ce soir de nous réunir pour te rendre ce culte. Et aussi pour entendre et écouter et méditer ta parole. Seigneur, rends ces moments fructueux pour notre foi, s'il te plaît. Ce seraient des moments totalement vains si nous n'étions aidés par ton Saint-Esprit pour comprendre et recevoir tout ce que tu veux nous transmettre. Nous te demandons cela humblement au nom de Jésus. Amen. L'Évangile, ça bouleverse. L'Évangile, ça bouleverse sans doute plus que vous ne l'imaginez et peut-être plus que vous le craignez. C'est vraiment l'idée principale de ce passage. Et quand on regarde la façon dont Paul raconte son témoignage, on se rend compte que premièrement, il veut faire comprendre à son auditoire que quand on a une vie qui tient la route, c'est pas forcément un gage de vérité. Quand on a une vie qui tient la route, c'est pas forcément un gage de vérité. Regardez ce que fait Paul au début de son témoignage, versets 3 à 5. Il est en train d'expliquer aux gens qui l'accusent, qui accusent Paul, il est en train de leur expliquer qu'autrefois, il était exactement comme eux. Il accusait lui aussi les chrétiens, il persécutait les chrétiens, il était un juif très religieux, très consacré à l'exercice de sa religion, à la pratique de sa religion, tout était clair dans sa vie. Il avait sa place dans la société, il était respecté, il était craint, il n'avait pas de besoins particuliers, de besoins matériels notamment. Il n'avait aucune raison de se remettre en question. Il avait une vie apparemment cohérente, qui tenait la route, sa vie tenait la route, il n'avait pas à se plaindre. Et il vivait par conséquent dans une sorte d'illusion, l'illusion qu'il ne lui manquait rien, et que si les choses changeaient dans sa vie, ça ne pouvait être qu'en moins bien. Et nous aussi, et j'imagine la plupart d'entre nous ici ce soir, nous menons une vie plutôt bien ordonnée. Notre vie tient la route. La plupart des gens que nous côtoyons, nos collègues, les membres de notre famille, nos voisins, ont une vie qui semble tenir la route. Ils ne sont pas forcément dans le besoin. Ils ont un métier, un logement, une place dans la société. Certains sont craints et respectés. Ils ont des loisirs, ils ont une assurance, ils ont leurs habitudes, ils ont peut-être même parfois une religion. Tout est bien en place dans leur vie. Ils ont une vie qui tient la route. Et le plus souvent, pour ces gens, l'idée d'un bouleversement les terrifie. Et on le comprend très bien, ça. C'est un peu comme si nous construisions un château de cartes. Est-ce que vous avez déjà essayé de construire un château de cartes ? Alors, il faut le faire de façon très méticuleuse, n'est-ce pas ? On pose les cartes petit à petit, on essaye d'échafauder ce château de cartes. Et puis, si vraiment on veut être sérieux, on ferme les fenêtres pour pas qu'il y ait de courant d'air, et puis on met un petit panneau sur la porte, sur la poignée de la porte, ne pas déranger, je suis en train de faire un travail très important, ne me dérangez pas. Bon, le château de cartes qu'on obtient est peut-être superbe, parfaitement symétrique, il est bien équilibré, mais notre hantise, c'est que quelqu'un ouvre cette porte violemment et crée un courant d'air qui fasse tout s'effondrer. Et ça, on ne le voudrait pas. Le truc, c'est que beaucoup de gens vivent leur vie comme ça. Ils ont échafaudé ce château de cartes. Et la chose qui les terrifie, c'est qu'il y ait un courant d'air qui fasse tout s'effondrer. Qui fasse tout se remettre en question. Et le truc, c'est que c'est pas parce que le château de cartes est joliment fait que forcément l'ouverture violente de la porte soit une mauvaise chose. Par exemple, si quelqu'un devait vous informer que le bâtiment était en feu et que vous alliez mourir si vous ne quittiez pas les lieux. Vous voyez ? Jésus lui-même a dit qu'on pouvait bâtir sa maison sur le roc ou sur le sable. Le truc, c'est qu'avant que la pluie vienne, les deux sont aussi jolies. Les deux sont sans doute aussi bien finies. Elles ont toutes les deux un joli crépi, une belle charpente, des beaux volets bien vernis, contrairement à chez moi. Mais c'est une apparence. Il y en a une des deux qui tient vraiment la route, c'est celle qui résiste au jour de la tempête. Celle qui est bâtie sur le roc et pas sur le sable. Et donc, on a tous besoin, dans un premier temps, d'un certain degré de lucidité. Et c'est à ça que Paul appelle ses interlocuteurs. Soyez lucides sur votre propre vie, parce que regardez-moi. Moi qui m'appelais autrefois Saul, vous avez peut-être remarqué que Paul est appelé Saul dans le texte, c'est parce que c'était son ancien nom avant qu'il devienne chrétien. Moi qui m'appelais Saul, j'étais comme vous. J'étais très zélé dans la pratique de ma religion. J'avais une bonne vie, d'ailleurs, la plupart d'entre vous, vous étiez peut-être envieux de la vie que j'avais, tellement j'étais respecté et puissant. Mais c'était une illusion. Et ce soir, peut-être que quelqu'un ici a l'impression que tout se passe pas trop mal dans sa vie. Vous avez votre métier, votre place dans la société. Vous avez tout prévu pour votre retraite. Vous avez vos habitudes, vos loisirs. Vous avez vos amis, votre famille. Vous avez votre religion, peut-être. Mais cela ne veut pas dire que le changement serait forcément une mauvaise chose. Ça ne veut pas dire que vous devez venir à l'église, comme on le fait parfois, sur la défensive, en craignant que quelque chose qu'on va entendre va remettre en question un élément de notre vie. Il ne faut pas que vous veniez à l'église avec un esprit, j'ai envie de dire, laïque ou laïciste. C'est bien beau ce que dit le pasteur, mais moi, de mon côté, je fais le tri. C'est bien beau ce que dit la Bible, mais moi, de mon côté, je fais le tri. Et j'applique cette sorte de laïcité à ma vie, la séparation des pouvoirs. Parce que j'ai peur de me remettre en question. J'ai peur que tel ou tel élément de ma vie soit remis en question. J'ai peur que le château de cartes s'écroule, alors que peut-être qu'il doit s'écrouler pour votre bien. Paul n'avait aucune raison de se remettre en question. Sa vie tenait la route. Mais Dieu a ouvert la porte. Il y a eu un grand courant d'air. Et oui, le bouleversement a été radical dans sa vie. C'est ce qu'il nous fait comprendre par la suite, versets 6 à 11. Où là, il nous fait comprendre tout simplement que l'évangile, ça bouleverse complètement la vie. Ça bouleverse complètement la vie. Et si aujourd'hui, votre vie n'a pas été bouleversée par l'évangile, si vous ne pouvez pas vous identifier à ce que dit Paul, pas dans le sens où vous identifiez à l'expérience de Paul qui a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, non, mais vous identifiez à ce type de bouleversement complet qu'entraîne l'évangile dans la vie d'une personne, si vous ne pouvez pas vous identifier à ça, c'est peut-être que vous n'avez pas très bien compris ce que c'est que l'évangile. En tout cas, Paul ici, il raconte de quelle façon Jésus s'est révélé à lui. Alors Paul, il a été, lui, directement confronté au Fils de Dieu dans sa gloire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas souhaiter. Parce que c'est terrifiant d'être confronté à la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, Paul lui-même, dans l'expérience qu'il a faite, il a été terrifié. C'était tellement énorme qu'il est tombé par terre et qu'il a perdu la vue. Il s'est retrouvé devant ce Christ qui était mort sur la croix, mais qui avait ensuite été ressuscité, mais non seulement cela, mais qui était monté au ciel auprès du Père, qui avait été glorifié, exalté, qui s'est assis, d'après le Nouveau Testament, qui s'est assis sur un trône auprès de Dieu le Père pour régner sur toute la création. Donc si vous craignez à l'idée de rencontrer François Hollande, Barack Obama ou le pape François, parce que vous dites que c'est des gens importants, ils ont beaucoup de pouvoir, c'est rien comparé à celui qui gère l'univers, d'accord ? Et Paul, il le rencontre, il est confronté à lui, il se retrouve face à lui. On comprend qu'il soit bouleversé, on comprend qu'il tombe par terre, on comprend que cette gloire l'est éblouie au point qu'il en perde la vue. Tout ce que Paul tenait pour acquis à ce moment-là de sa vie est soudainement remis en question. On peut comprendre pourquoi. Le voilà qui dit, verset 7, « J'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Non mais, Mettez-vous à la place de l'apôtre Paul, d'accord? Vous êtes confronté au personnage le plus puissant de l'univers. Encore une fois, ce n'est pas Jules César, là. Ce n'est pas Néron. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui règne dans sa gloire et qui dit à Paul, « Toi, tu es en train de me persécuter. » Je ne voudrais pas être à la place de Paul à ce moment-là. Paul, il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Imagine tout ce qui est remis en question dans la vie de Paul à ce moment précis. Il pensait que sa vie tenait la route, mais ce n'était pas un gage de vérité. Le château de cartes s'effondre ici. C'est un peu comme quelqu'un qui déciderait de coloniser une île déserte. D'accord ? On en a marre de cette société, alors on trouve une île déserte sur la carte et on y va. On y construit notre maison, on y plante un potager, on commence à y élever du bétail, on y installe notre famille, on se dit, ben, tout va bien. J'ai trouvé un endroit qui puisse être à moi. Jusqu'au jour où, François Hollande vous appelle. Et puis, même, il va envoyer quelques hélicoptères et peut-être un petit peu de bateaux de l'armée pour taper à votre porte, pour vous signaler. Au fait, cette île, c'est un territoire français depuis plusieurs siècles. Et ça remet en question tout ce que vous pensiez avoir, n'est-ce pas? Votre petit château de cartes s'effondre, c'était pas ce que vous imaginiez. De la même façon, ici dans le texte, Paul découvre soudainement que le patron n'est pas celui qu'il croyait. Il pensait combattre dans le bon camp. Et en fait, il était l'ennemi, le persécuteur même, du roi de l'univers. Paul découvre soudainement qu'il est en train d'aller contre les projets du maître du monde. L'évangile bouleverse la vie parce que dans l'évangile, nous apprenons que le patron n'est pas celui que nous pensions. Alors on apprend beaucoup de choses dans l'évangile, bien sûr. Mais on apprend notamment que le patron, le chef de ce monde, le roi de l'univers n'est peut-être pas celui que nous pensions. En fait, le chef de votre vie n'est peut-être pas celui que vous pensez. Celui ou celle que vous pensez. Parce que je peux vous affirmer que votre vie ne vous appartient pas, en fait. Vous n'êtes pas libre, ou plutôt vous n'avez pas le droit de faire de votre vie ce que vous voulez. Parce que ce n'est pas vous qui vous êtes donné à vous-même la vie. Vous êtes une créature de Dieu. Dieu vous a donné la vie. Dieu vous a façonné. Dieu vous a donné l'apparence physique que vous avez. Dieu, vous appartenez à Dieu qui vous a conçu et créé. Et vous êtes redevable de votre vie à Dieu. Et dans l'Évangile, nous apprenons que Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, prendre sur lui, à notre place, le poids de nos péchés qui nous séparaient de notre Créateur, justement pour nous en délivrer, pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Donc Dieu a payé, non seulement il vous a créé, mais ensuite s'il vous appelle à lui, c'est qu'il a payé un prix cher pour que vous puissiez répondre à cet appel et être réconciliés avec lui. Mais non seulement cela, mais son Fils Jésus-Christ qui est venu mourir pour vous sur la croix, il est ressuscité en vainqueur sur tous les ennemis de Dieu. Et le Nouveau Testament dit qu'ensuite, il n'est pas parti en vacances parce qu'il avait fini son job. Il n'est pas allé prendre sa retraite à l'autre bout du monde parce que ça y est, il avait accompli sa mission, non? Il est monté auprès du Père, il siège à sa droite et il règne. Il est ce roi que Dieu a intronisé, dont on a entendu parler au psaume 2 au début de ce culte. C'est lui dont le royaume s'étend jusqu'aux extrémités du monde. Et donc, on ne peut pas dire « Désolé, mais ma vie m'appartient. » Non, ma vie appartient à Dieu. Je suis sous le règne d'un Seigneur. Et soit je lui fais confiance et j'entre au bénéfice de sa grâce, soit je suis un rebelle contre lui. Je rejette son autorité. Mais puisqu'il est le Seigneur souverain, il ne va pas laisser la rébellion passer impunément. Il exercera un jour, c'est sûr, son autorité. Alors vous voyez, l'évangile, ça bouleverse la vie. Ça bouleverse la vie de tous ceux qui veulent bien écouter de quoi il s'agit dans l'évangile. Il faut que nous nous demandions chaque jour, mais qui est le patron de ma vie? Est-ce que je vis comme si c'était moi le patron? Ou bien est-ce que je vis comme si c'était le Seigneur Jésus-Christ le patron? Voilà, ma vie ressemble à ce château de cartes, stable, joli, symétrique, équilibré. Est-ce que je suis prêt à laisser entrer le patron, celui qui a le droit d'entrer quand il veut, en fait? Est-ce que je suis prêt à le laisser entrer au risque d'un courant d'air qui fasse s'effondrer tout ce que j'ai construit, ou peut-être une partie de ce que j'ai construit? Accepter l'œuvre de Jésus et son règne, c'est accepter un bouleversement radical. Est-ce que vous avez déjà lâché prise devant Dieu? Est-ce que vous avez, comme on le dit parfois, lâché les rênes de votre vie pour laisser Dieu les prendre, pour laisser le Seigneur Jésus les prendre et vous conduire? Est-ce que vous reconnaissez chaque matin que cette île déserte où vous pensez avoir construit votre maison, où vous avez planté votre potager, où vous menez votre vie, eh bien qu'elle ne vous appartient pas? Autrement dit, que votre vie ne vous appartient pas, mais qu'elle appartient à Jésus. L'apôtre Paul, il nous raconte ici, par son témoignage, qu'il a été confronté à cette réalité, très soudainement. Sa vie tenait la route, c'était pas un gage de vérité. Il a été confronté au Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, et là, il a compris que l'évangile, ça bouleverse. Ça a bouleversé sa vie, complètement. Mais la troisième et dernière chose que Paul nous fait comprendre, et fait comprendre à ses interlocuteurs à travers son témoignage, c'est une idée qui est simple à formuler, mais qui est tellement difficile à mettre en pratique, voire même à accepter. Et c'est la suivante. C'est Dieu qui décide dans tous les domaines. C'est Dieu qui décide dans tous les domaines. Alors, en reconnaissant l'œuvre de Jésus à la croix, Paul, il nous dit ici, quand il reconnaît l'œuvre de Jésus à la croix, quand il reconnaît son règne, il devient totalement redevable à Jésus pour toute sa vie. Il devient aveugle. On a besoin de le conduire maintenant sur le chemin. Il a besoin d'être guéri. Il devient complètement dépendant en quelque sorte. Et puis ensuite, il nous raconte qu'il va recevoir même une vocation radicalement nouvelle. Même, je dirais, une vocation contraire à celle qu'il avait avant, juste avant de devenir un chrétien. Parce qu'avant, il persécutait les chrétiens. Maintenant, Jésus dit, mais toi, je vais t'utiliser comme un instrument de choix pour étendre mon règne, pour faire connaître l'évangile. Il devient donc sujet de Jésus-Christ, et puis il va manifester cette allégeance par le baptême, quelques versets plus loin. Ça me fait penser à cette histoire très connue, que vous avez déjà entendue peut-être, l'histoire d'Abraham Lincoln. Je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est une histoire vraie. On la raconte souvent comme étant une histoire vraie, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous le garantir. Abraham Lincoln se serait rendu à un marché d'esclaves un jour, et puis il aurait vu une jeune fille esclave qui était en train d'être vendue aux enchères, et puis Abraham Lincoln a proposé un prix supérieur à ses concurrents, et puis il a continué de faire monter les enchères, de faire monter les enchères, de faire monter les enchères, jusqu'à ce que plus personne ne puisse rivaliser avec son offre. Alors il achète cette jeune fille, et puis il la prend et il s'éloigne du marché d'esclaves, et ensuite il se tourne vers elle et lui dit « Ma jeune fille, tu es libre. Je t'ai acheté pour te libérer. » Alors la jeune fille qui a grandi dans l'esclavage, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Elle dit « Mais est-ce que ça veut dire que je peux dire ce que je veux ?» Oui. « Ça veut dire que je peux faire ce que je veux ?» Oui. Ça veut dire que je peux aller où je veux? Et il dit oui. Alors elle lui répond, bah dans ce cas, je veux aller avec vous. Paul, dans ce texte, il fait un peu une expérience similaire. Sa vie est bouleversée quand il prend conscience de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. Et sa vie, et dans l'expérience de Paul, c'est pratiquement du jour au lendemain, sa vie devient suspendue à Jésus-Christ. Maintenant, il va vivre pour lui, le servir, le suivre, aller avec lui. Paul a compris que Jésus avait payé le prix fort pour le libérer de l'esclavage du péché et pour le libérer des conséquences du péché, c'est-à-dire de la mort. C'est pour ça qu'il écrit ce verset qu'on a lu tout à l'heure. Il dit maintenant, libéré du péché et esclave de Dieu, vous chrétiens, comme moi Paul, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Jésus a vaincu tous les ennemis. Il règne au-dessus de toute puissance imaginable. Alors qu'est-ce qu'on attend? Sérieux? Qu'est-ce qu'on attend pour lui faire confiance? C'est peut-être parce qu'on ne le croit pas. C'est peut-être parce qu'on en doute. Peut-être parce qu'on n'a pas bien compris. Mais si vous venez ici régulièrement, vous allez l'entendre régulièrement. Jésus a accompli une œuvre extraordinaire. Il a payé un prix que personne d'autre ne pouvait payer. Il est ressuscité en vainqueur sur tous les ennemis de Dieu. Il siège à sa droite, au-dessus de toute la création. Et maintenant, il vous invite à entrer au bénéfice de ce règne. Entrez gratuitement. Venez auprès de Jésus. Faites-lui confiance. Embrassez le Fils, comme dit le psalmiste au psaume 2. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire, sérieusement? Qu'est-ce qu'on attend? Vous savez ce que ça veut dire le mot musulman? Musulman, ça veut dire ceux qui se soumettent. Ceux qui se soumettent. Mais vous savez quelle est la différence entre l'islam, entre le Dieu de l'islam, pardon, et le Dieu des chrétiens? Le Dieu, le vrai Dieu, hein, c'est que le Dieu de l'islam exige notre allégeance sans jamais nous montrer sa bienveillance. Le Dieu de l'islam est appelé le miséricordieux, pourtant, dans le Coran. Mais il ne montre jamais sa bienveillance, il ne la manifeste jamais, il ne la prouve jamais. Mais le Dieu de l'Écriture sainte, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, il est aussi appelé le miséricordieux. Mais il nous prouve sa bienveillance, il nous prouve sa miséricorde dans l'histoire et dans le temps, dans l'espace et dans le temps, en envoyant Jésus-Christ sur la croix, prendre sur lui le poids de nos péchés. Vous voyez la différence? Auquel de ces deux dieux vous êtes plus enclin à faire confiance? Et auquel de ces deux voulez-vous vous soumettre? Le Dieu de la Bible exige aussi notre allégeance, mais il a démontré son amour pour nous en livrant son propre Fils à la croix pour qu'il paie à notre place le prix de nos péchés. Dieu nous aime à ce point. Il n'est pas permis de douter de l'amour de Dieu quand on peut considérer la croix où Jésus est mort. La seule réponse cohérente à un tel amour, c'est de devenir en retour les sujets d'un tel Seigneur et Sauveur, les esclaves volontaires de Dieu. Si j'ose le dire ainsi, des musulmans de Jésus-Christ, ceux qui se soumettent à Jésus-Christ. Alors, on parlait de laïcité en introduction, on parlait de cette attitude quelque peu laïque que nous pouvons avoir par rapport à notre propre vie, qui consiste à compartimentaliser les différents aspects de notre vie pour que, eh bien, les enseignements de la Bible, pour que l'Évangile, pour que Dieu, Jésus, eh bien, ok, dans cette partie de ma vie, mais que ça ne concerne pas ces autres parties-là, que ça ne bouleverse pas trop mon train-train quotidien, etc., etc. Mais la Bible, comme dans ce passage ici, détruit cette mentalité. Face à la crainte que nous avons vis-à-vis d'une foi radicale, d'une foi qui bouleverse, d'une foi dont tout le reste dépend, eh ben, ce texte a mis en avant ces trois principes importants. Une vie qui tient la route, ce n'est pas forcément gage de vérité. Autrement dit, ce n'est pas parce que les choses semblent aller bien que nous devons forcément garder la porte fermée et empêcher le courant d'air du Saint-Esprit de venir faire tomber le château de cartes. On a vu aussi, deuxièmement, que l'Évangile, ça bouleverse complètement la vie. Autrement dit, quand on reconnaît la vérité de l'Évangile, en quoi ça consiste, logiquement, on devrait accepter que notre vie ne nous appartient pas, mais qu'elle appartient à Jésus. Recevoir l'Évangile, c'est accepter le renversement de toute la hiérarchie sur laquelle notre vie était basée lorsque nous n'étions pas croyants, en pensant que c'était nous le patron. Et puis, troisièmement, on a vu que c'est Dieu qui décide dans tous les domaines. Le bouleversement induit par l'Évangile est un bouleversement radical, sans doute pire que nous le craignions, peut-être pire que nous le pensions, mais sans doute bien plus bénéfique aussi que nous ne l'aurions jamais imaginé. Une vie complètement dépendante du Seigneur Jésus-Christ, c'est bien mieux que ce que vous l'imaginez, que ce que j'imagine aussi. Et on le découvrira bien sûr dans l'éternité, lorsque nous passerons notre temps à glorifier Dieu, lorsque notre vie sera manifestement, visiblement et pratiquement suspendue à Jésus-Christ du matin au soir. D'ailleurs, il n'y aura pas de soir, parce que la gloire de Dieu resplendira tout le temps. Hein. C'est le livre d'Apocalypse qui dit il n'y a pas de nuit hein, dans l'éternité. Bon, c'est peut-être du langage figuré, hein, mais bon. Ananias a dit à Paul, verset 16, à la fin de ce passage, « Pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Chaque jour, à notre tour, mes amis, lorsque nous nous levons le matin, pensons à la croix, pensons au tombeau poussiéreux où le corps du Fils de Dieu a été entreposé. Et puis ensuite, pensons au tombeau vide après que Jésus soit ressuscité. Pensons au trône céleste de Jésus. Pensons à son règne suprême sur toute la création. Lorsque vous sortez de votre lit, que vous allez un peu tout titubant vers la machine à café pour lancer le programme, pensez à cela. Le Seigneur règne. Il est bienveillant. Il règne sur tout l'univers. Et ensuite, posez-vous la question suivante. Et moi, qu'est-ce que j'attends? Pour laisser Dieu bouleverser ma vie. Pour laisser Dieu prendre les rênes de ma vie dans tous les domaines. Amen. On va prier. Seigneur, nous voyons à travers ce texte que tu as saisi les rênes de la vie de l'apôtre Paul alors qu'il était ton ennemi, un ennemi violent. Cela ne t'a pas empêché de l'aimer. Seigneur Jésus, tu as pris sur toi les péchés de cet homme qui persécutait violemment des innocents. Et tu l'as délivré de ses fautes. Et tu as fait de lui un instrument de choix entre tes mains. Puisses-tu, Seigneur, nous aider à notre tour à prendre conscience de ce que tu as fait pour nous délivrer de nos péchés. Et pour que nous puissions te servir de manière fructueuse, sans aucune hésitation, avec enthousiasme, par ton Esprit Saint, Seigneur, s'il te plaît, augmente en nous notre conscience de ce que tu as fait pour nous et que cela nous transforme. Amen.